vraiment nombreux, d'ici un petit kilomètre, on va se séparer en deux groupes et on va commencer vraiment la découverte du lieu, quoi. Voilà, on a beau avoir pas mal de toi. Et donc,
oui,
le deuxième groupe,
le groupe,
c'est Guy.
Ah bon, c'est nous, Guy.
Voilà, qui est plus investi dans les oiseaux, mais qui connaît tout aussi. Voilà.
Tout. Mais, lui, il connaît tout. Allez, hop, on y va. C'est parti. On est chez Sylvain Frénaud. Lui, il habite là, et puis il a mis à disposition son à la vacherie. Il a mis à disposition son hangar, et puis on va cheminer un peu sur le chemin, puis on va rentrer dans la zone un peu plus boisée à droite, et puis un peu plus bocagère à gauche. Là. Puis on va aller voir ce qu'il y a.
Et par rapport à la ZAD, on est à quel endroit en gros?
Ah ben, on est à l'ouest, sud. Sud-ouest de la ZAD. Légèrement au sud, on va dire. Enfin, on est dedans. Hein.
Mais toi, qu'est-ce que tu fais dans... Tu fais partie des naturalistes?
Oui, je fais partie des naturalistes depuis que ça est créé. Et puis, on essaye de repérer tout ce qu'il y a d'intéressant sur la zone. Et de faire le boulot un peu plus complètement que ce qui avait été fait par Biotope pour Vinci. Ce qui n'est pas très difficile parce qu'ils avaient pas beaucoup de. Ils n'ont pas mis beaucoup de moyens ni beaucoup de temps pour le faire. Donc comme nous on y met le temps et les moyens, c'est-à-dire beaucoup, pas mal de gens, et ben on voit beaucoup plus de choses qu'eux. On trouve beaucoup plus de choses qu'eux.
Tu peux nous rappeler justement le moment où vous avez décidé justement de créer ce collectif?
Alors on l'a créé maintenant en 2012, ça fait quoi? Ça fait, on va dire, 3 ans et demi, 4 ans. Les naturalistes en lutte, les NEL, pour faire bien. C'est-à-dire que c'est un groupe de naturalistes qui s'intéressait à la zone, qui avait trouvé que le travail fait par Biotope posait un certain nombre de problèmes, à la fois dans la façon de faire et dans la façon dont ils avaient un peu bâclé le boulot. Ça se voyait à la lecture des rapports. Les protocoles qu'ils avaient mis en place et les moyens qu'ils avaient mis faisaient en sorte qu'on estimait qu'ils n'avaient pas fait le boulot. Donc on est allé sur place, on savait qu'il y avait plus de choses que ce qu'ils disaient, et on a décidé de faire une contre-expertise, en fait. Chose qui s'était encore jamais faite à notre connaissance et à cette échelle-là. Et donc on a mis pas mal de gens sur le terrain, à la fois des gens très qualifiés et d'autres un peu moins, qui découvraient aussi le site. Et on a repéré pas mal de choses que, effectivement, les naturalistes n'avaient pas vues. Que les naturalistes de Biotope, nous, on les avait vus, mais les naturalistes de Biotope n'avaient pas vus.
Biotope, c'est la société qui a été choisie par Vinci.
C'est le bureau d'études. C'est le bureau d'études qui a fait l'étude d'impact et qui a essayé de déterminer tout ce qui pouvait pousser et vivre et qui pourrait poser problème ici si on faisait un aéroport. Et ils ont dit que c'était très banal. Et nous, on dit que c'est pas banal du tout. Pas du tout. Voilà. Parce qu'en fait, le site a été protégé. La fameuse ZAD, qui c'est pas simplement une zone à défendre, c'est aussi une zone d'aménagement différé, originellement. C'est à ça que ça sert. Et cette zone a été protégée pendant 50 ans. Donc, résultat, on se trouve ici devant un site qui était tel que les autres milieux agricoles et bocagers étaient il y a 50 ans. Donc, préservé, et tout le reste maintenant a été l'agriculture industrielle a tout ravagé, les haies sont parties, les milieux se sont banalisés, ont été complètement retournés, et donc on se trouve avec une zone tout à fait préservée, et c'est ça qui est intéressant.
C'est pour ça qu'il faut encore plus la préserver.
C'est pour ça qu'il faudrait mieux continuer. Voilà.
Déambulation dans le bocage de Notre-Dame-des-Landes avec les naturalistes en lutte.
Oula, il y en a qui sont venus sans bottes. Ah, ça c'est audacieux.
Le sac plastique est bien.
Le sac plastique. Bon, ça tiendra le temps qu'il faut. Hein.
Fin janvier 2016.
ça c'est un passage. Alors il est fréquenté, même s'il est fort.
C'est vrai que c'est très facile, j'ai fait une matière que j'ai mis comme ça, on repère plus
les sabots. Les sabots, oui.
Les sabots, sanglier, ça serait tout défoncé, mais on va peut-être en plus, il y a beaucoup de sangliers sur la zone.
Il y en a partout.
Il y a de plus en plus,
de plus en plus, partout.
Mais partout, hein, c'est ouais. Pas... Mais ici, comme l'accueil est encore...
la chasse est assez limitée.
Et, voilà, et puis c'est une zone d'accueil intéressante aussi. Ceci dit, il y a moins de maïs, il y a moins de bouffe.
Enfin, oui, oui,
faut
oui.
Qu'ils
oui.
soient plus motivés ici, les sangliers.
Ben, il y a des moments où c'est plus intéressant d'être à l'extérieur justement pour le maïs. Et puis après, ils rappliquent un peu dans cette zone-là. Puisque une fois que le maïs est tombé, les chasseurs prennent leur fusil et c'est un peu dangereux pour le sanglier de base. Donc, ils viennent se rapatrier par ici où ils savent que de toute façon, ils auront la tranquillité. Donc, il y a quelques chiens, mais il n'y a pas de chasseurs.
Ou très peu. Très
peu de chasseurs. Et encore
parce
quelques...
Que
bah c'est pas qu'il n'y a pas de gibier, mais enfin c'est une zone un peu compliquée ici. Hein,
oui,
de... Un balai avec son fusil et ses trois chiens,
c'est pas bien vu.
Oui, c'est pas simple.
C'est une zone qui fait peur.
Hein, ouais, un peu.
C'est très bien comme ça, il y a moins de chasse. Sur... C'est une zone de tranquillité.
C'est une zone de tranquillité, ouais.
Mais bon, c'est pas les espèces les plus intéressantes.
Ah, les plus intéressantes. Celles qui ont fait l'objet d'études poussées et de recours, c'est les campagnols. Alors pas les campagnols terrestres habituels, parce que ça c'est une des espèces très communes, c'est les campagnols aquatiques. Des petites bêtes qui vivent le long des ruisseaux, alors des ruisseaux plutôt courants. Bon, ça c'est plutôt un fossé qu'un ruisseau. Et ces espèces-là sont assez peu répandues, elles sont protégées. Et il y a eu un recours qui a été fait contre l'aéroport du Grand Ouest parce qu'ils avaient oublié cette espèce-là dans leur nomenclature.
Alors ça, c'est plutôt de l'aquatique.
Il y a du chevreuil là-bas. Là.
Ah, c'est du chevreuil.
Il y a des traces dans la boue.
Voilà. Donc il y a des traces de chevreuil aussi.
Est-ce que vous les tracez
les mammifères non.
Non.
On pourrait tracer des animaux qu'on ne connaît pas, ou très peu. Sauf que par exemple, on parlait du campagnol aquatique. Tracer un campagnol aquatique et lui poser. Alors c'est une bestiole qui va dans l'eau. Lui poser une balise sur le dos, il est grand comme ça. Il faut que la balise efface pas son poids.
10 cm.
C'est pas la peine. Donc il faut une balise minuscule. Donc c'est
très très cher.
Voilà. Oui, et on n'a pas les moyens, nous.
Oui, pour les oiseaux, c'est utilisé, mais c'est...
Poser les caméras sur les...
Il faut tout le matériel pour faire la recherche après, tout, le repérage. Donc là, il y a des coûts.
Il y a un suivi GPS qui se fait. Si on demande un suivi GPS des campagnols aquatiques de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, on n'aura pas de crédit. En fait, donc on le fait pas. Puis c'est très compliqué à faire.
Comment les trouver des traces de la loutre ?
Il y a des traces de loutre. Elle est certainement sur le Gèvre, dans
elle
le Gèvre.
Elle est plus
au sud.
Oui.
Donc elle est là.
Moi j'en ai vu une Alors, fois, mais personne ne m'a cru.
Non, on en a vu. Si, on en a vu. On a trouvé des traces, les épreintes.
La pinelière, une fois.
Ah oui, d'accord.
Ouais,
vers la
de l'autre côté là-bas. De toute façon, elle est dans le Gèvre. On le sait depuis 15 ans au moins, 20 ans, elle est revenue dans le Gèvre. Elle était dans l'herbe.
Oui.
Elle avait quitté l'herbe, parce que bon, les loutres, les effectifs de loutres avaient beaucoup chuté. Elle est revenue sur l'herbe il y a à peu près un quart de siècle. Elle est même allée jusqu'à Nantes, donc elle n'hésitait pas. Elle est arrivée à adapter ses conditions de vie aux conditions qu'elle trouvait. Puisqu'elle a même cherché à faire une tanière à l'île de Versailles, à Nantes. Il fallait oser. Les loutres, avant, elles ne faisaient pas ça. Là, elle a compris qu'à Nantes, on n'allait pas trop l'emmerder. À part les chiens, elle n'est pas trop emmerdée. Donc, elle a tenté. Bon, le dérangement était quand même trop important. Elle était audacieuse, celle-là. Sous le... Je ne sais pas si vous voyez sur l'île de Versailles, il y a un bâtiment très moderne qui est un restaurant. Elle était dessous. Il ne fallait pas avoir peur. Donc, sur l'herbe, elle est très présente. Elle a remonté dans le Gèvre. Le Gèvre, c'est beaucoup plus fréquentable pour elle. Au-dessus de Sucé, c'est très fréquentable pour elle. Donc, les conditions sont réunies pour qu'elle puisse circuler. Elle a tout ce qu'il faut. Et donc, ici, elle vient casser la croûte de temps en temps. Elle cherche des endroits. Alors, elles mangent que du poisson. Sauf tout à fait exceptionnel. Donc c'est pas le meilleur endroit pour trouver du poisson. Le Sabot est une zone humide, il n'y a pas beaucoup de bassins avec du poisson. Mais sur un certain, elle circule par un certain nombre de ruisseaux, ce qui lui permet de, d'aller dans, dans, certains, le, dans certains ruisseaux où il peut y avoir éventuellement de quoi casser la croûte. Mais c'est surtout sa zone de repli et de vie, c'est le Gèvre. Donc elle vient ici. On l'a vu, elle
par
et
contre,
ses traces.
C'est nocturne.
Alors, c'est devenu nocturne par la pression qu'on lui a mis dessus, mais autrement, on peut la voir le jour.
Ouais,
le soir et le matin, on la
voit. J'ai vu en pleine journée à Noirmoutier, en pleine journée.
Non, moi, je l'avais vu un matin, je n'avais pas d'appareil photo, et on m'a dit, tu as vu un ragondin. Je me suis dit, c'est quand même...
Il y a une différence, hein. Il y a une différence. Une grosse différence.
Je suis quand même par la différence, parce que c'est vraiment...
C'est très, très effilé.
Et il y en avait trois.
Il y en avait trois.
Ouais, au niveau de la pinelière là, et c'est, ouais,
un adulte et deux jeunes, sans doute.
Bah, sans doute, oui. Ouais.
Alors si vous voyez des traces, on s'arrête. À part les traces de tracteur et de camion, hein, mais.
Traces de pattes.
Traces de pattes. Voilà, ça c'est encore un passage.
Ouais.
Et il passe de l'autre côté, alors après il. Là, il passe à droite. Même si tout le monde n'est pas convaincu. Les talus avaient grande importance. Bon, ils étaient un peu plus importants que ceux-ci chez les Bretons il y a longtemps. Mais c'était une façon à la fois de délimiter une parcelle, mais aussi de planter un certain nombre d'espèces et de préserver un milieu. Alors est-ce que c'était comme ça qu'ils affichaient les gens qui ont installé ces talus, qui les ont fabriqués, qui les ont posés autour de chez eux, est-ce qu'ils pensaient réellement à faire de la diversité? Bon, ce qu'ils savaient, c'est que ça avait un intérêt, et l'intérêt que ça a, c'est que c'est des milieux qui sont très pauvres. Si on traite, alors vous voyez que les champs, bon, ils sont plus ou moins travaillés, les prairies sont plus ou moins permanentes, donc on traite les champs. Plus on engraisse un champ, azote, phosphate, plus il s'appauvrit. C'est ça, en termes de diversité, évidemment. En termes de culture, évidemment, il s'enrichit. Donc s'il s'enrichit, à plus ou moins court terme. Alors on peut discuter même de ça. Mais logiquement, dans un premier temps, le premier réflexe de la Terre, c'est de réagir à ça et effectivement de s'enrichir, donc d'engraisser ce qu'on va y planter. Donc c'est ça l'objectif. Mais à la fois en termes de rentabilité à moyen terme et en termes de diversité, c'est vraiment une catastrophe. On a des espèces très monospécifiques, sans intérêt, enfin sans beaucoup d'intérêt, très répandues, alors que sur un talus, lui, il est protégé, il n'est pas traité. Il ne sera jamais traité. Personne n'aura l'idée de traiter un talus, sauf éventuellement s'il y a une espèce de plante qu'on a envie d'évacuer. Alors, des fois aussi, le traitement du champ... On déborde un peu, donc voilà. Mais vous verrez ici que on est dans des, vous voyez, hein, d'ailleurs plus on va descendre, plus les prairies vont rester ce qu'elles sont, c'est des prairies permanentes. Donc les traitements sont inexistants. C'est des zones qui sont pas traitées, ça. Quelques-uns des agriculteurs du coin font un peu de maïs en silage pour leurs bêtes, mais c'est pas pour faire du grain. Personne, je crois que si, il y en a un qui fait du blé. Il y en a un qui faisait du blé, qui fait de temps en temps du blé. Mais autrement, tout est axé sur l'élevage. Donc quand ils font du maïs, c'est pour l'élevage. Donc là, ils traitent, effectivement, quand ils font du maïs. Il n'y a pas d'agriculteur bio ici, à Notre-Dame. Mais voilà, il y en a quelques-uns qui traitent. Mais ça n'empêche que la zone est fort intéressante. Bon, s'il y avait encore deux ou trois bio dans la bande, ce ne serait pas un problème. Mais ce serait même plutôt mieux. Mais enfin bon. On a discuté avec Sylvain, qu'on a rencontré plusieurs fois. Lui, il dit, il est bio, c'est bien, mais je continue à travailler comme... Chacun a parfaitement le droit de travailler comme il souhaite travailler. Mais c'est vrai que l'élevage est moins demandeur d'engrais et que seuls ceux qui font de l'ensilage utilisent l'engrais. Donc en fait, c'est des zones qui sont très peu traitées. Et l'intérêt de ces zones-là, par exemple, on arrive dans une prairie permanente et on va descendre vers les ruisseaux. Là, on va descendre dans les bas, ça va être de plus en plus grand. Hein. C'est logique. Hein. C'est la diversité de ces sites est très, très, très intéressante, très importante. Ah, la différence d'ici.
Le talus, du coup, ça devient une réserve pour plein d'animaux qui vivent sur les voilà. côtés. Et quand c'est très humide, ils se réfugient sur les talus. Par exemple, le lézard vivipare, hein, qui est bien présent et qui ne peut être là que grâce au talus, en fin de compte. Hein.
Oui, autrement, il ne serait pas là.
Sinon, il ne serait pas là ou en très petite quantité sur une zone peut-être un peu plus
surélevée. Oui.
Et ça accueille aussi, et comme tu disais, ça servait au Moyen-Âge, donc de plan, ils plantaient, ça faisait le bois et ça protégeait aussi, ça maintenait les animaux dans les parcelles.
Voilà, c'est ça. C'était le rôle de la limite de propriété.
Bon, il y a une super expo qui a été faite.
Un peu les trognes, les choses comme ça, les chênes trognes, il y a eu ici aussi, pour faire du bois de chauffage, des choses comme ça, il y a eu cette pratique ici aussi.
Alors, ils ne le pratiquaient pas tellement ici, c'est...
Oui,
oui,
chêne pétard, là.
Oui chez nous aussi, sur les bords de Loire, ça se pratique beaucoup. Mais c'est une façon, de les agriculteurs avaient une façon de se comporter vis-à-vis du bois, c'est-à-dire que les arbres ne leur appartenaient pas. C'était
des
locataires, c'était des fermiers, des métayers. Donc l'arbre ne leur appartenait pas. Ils avaient le droit de couper une partie pour faire du bois de chauffage. Donc ils ont coupé une partie pour faire du bois de chauffage. Ils n'ont pas spécialement essayé de faire du tétard, mais la coupe en tétard leur permettait, sans prélever un arbre qui ne leur appartenait pas, ou alors ils auraient été obligés de le payer, d'obtenir malgré tout une certaine quantité de bois pour pouvoir se chauffer. Donc cette pratique a vécu longtemps et vit encore, même si ça se perd. Ouais, on en voit encore. Sur les bords de Loire, on voit encore.
Oui, avec les frênes.
Ici, vous verrez, on n'est pas très tétard.
Hein. Il y a encore des traces de ouais. des chênes qui ont été taillées en tétard.
Et ça avait beaucoup d'intérêt pour la biodiversité. C'est une pratique intéressante qui permettait à pas mal de petites bêtes de se servir après des arbres qui se creusaient. En fait, les arbres se creusaient.
Oui, voilà. C'est ça. Il y a plein de absolument. Cavités dans les trous.
C'était des nichoirs. Ouais.
C'est quoi comme nid là ?
Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, ça doit être des. Alors, les corvidés, c'est les becs droits, les corbeaux, corneilles, plutôt corneilles que corbeaux d'ailleurs, parce que les corbeaux ils aiment bien se faire plutôt des colonies. Donc là, il n'y en a qu'un. Donc c'est plutôt une corneille.
Ça peut être pie ou corneille.
Ou une pie, un reste de pie.
Si vous arrivez à avoir de la terre dedans, c'est que c'est de la pie.
Oui, voilà. S'il y a du maçonnage, c'est une pie. Alors, la pie fait aussi un dôme dessus. Elle protège son nid en ronces et en épines avec une entrée pour protéger alors que les corneilles non
pour protéger,
on fait simple
pour protéger des corneilles justement
pour protéger des corneilles
oui, des
et des collègues.
Là, vous avez des mésanges qui chantent là.
Alors on
sent le printemps.
Il y avait un paquet de passereaux là.
Ah oui.
Il y
en a encore, oui. Ah oui, il y en a encore. Ils sont à côté de l'arbre à gauche. Là. Ouais. Vous les voyez. Alors, tout le monde n'a pas amené ses jumelles. Non, j'ai remarqué. Il fallait oser.
Après, souvent, les loups sont réutilisés par d'autres oiseaux. Les hiboux moyen-ducs, par exemple, aiment bien réutiliser les anciens nids de corneilles ou de pie.
On va aller jeter un œil sur les... Enfin,
il y a des gens qui ont braqué leurs jumelles. Il y a quelques oiseaux dans le fond de la prairie, là-bas. Enfin, dans le fond de la verdure.
Ah, les petites bêtes qui sautent.
Vous voyez, c'est du pinson.
Il y en a un certain nombre. Et ils sautent dans... Alors, ils montent dans le chêne, ils redescendent. Vous les voyez faire ? Est-ce que vous les voyez sans jumelles faire ça ? Vous voyez, les oiseaux montent dans le chêne, ils grimpent là-haut, puis ils redescendent et ils sont en train de casser la croûte dans la prairie. Alors là, on se rapproche d'une...
Vous voyez la différence entre celle-là
et celle-là ? Ça, c'est prairie permanente.
Celle-là a été travaillée. Elle est plus uniforme.
Mais là, on les voit sauter.
Ah, ils sautent. Ouais. Alors, ils sont en train de casser la croûte.
Alors, c'est quoi
c'est des pinsons. Pinsons des arbres. Surtout. Il y a peut-être deux ou trois autres bestioles. En hiver, ils se rassemblent. Ils vivent en groupe. Ça leur permet de trouver le casse-croûte. Le casse-croûte est rare. Donc, on se met en groupe pour trouver le casse-croûte. Et on vit en groupe. On se planque dans une haie. Pour passer la nuit en hiver pour ces oiseaux-là, la difficulté c'est de finir la nuit. Le lendemain matin, quand il fait moins 5, c'est un peu raide. Et comme le casse-croûte est pas très fréquent et que le trouver un abri n'est pas facile, ils se mettent à plusieurs pour le trouver. Et ceux qui sont les plus malins de la bande, expliquent aux autres. Ils s'agglutinent et s'agglomèrent pour survivre. C'est pour ça qu'on trouve en hiver des grandes colonies de petits passereaux dans les prairies ou quand ils se déplacent. Et ceux qui se déplacent en groupe aussi. Ces oiseaux-là se déplacent en groupe, c'est plus facile et c'est plus sûr. Il n'y a que les grands qui se déplacent seuls, et encore, même les grands, ils arrivent à se déplacer en groupe. C'est plus sûr aussi. C'est toujours plus sûr de le faire en groupe. Un isolé, c'est facile. Pour, par exemple, un épervier se perche là-haut. Il y a un ou deux isolés, ça va être... D'abord, il faut que les isolés le repèrent. Et s'ils sont 150, le prédateur s'en fait. Vous voyez, vous avez la... Quand vous les voyez grimper, vous voyez la, peut-être à l'œil nu la trace blanche qu'il y a sur l'aile. Vous voyez la taille du... Sans les jumelles, c'est pas toujours simple. Hein. Surtout distinguer avec les quelques collègues qui s'en rapprochent, comme les verdiers éventuellement. Mais vous voyez, c'est du pinson. Et là, ils vont commencer à
faire.
Ah oui, c'est une belle bande, oui.
Parce que en dehors, dans les zones de
ici, les enjeux sur les oiseaux sont moins importants que les enjeux, certains enjeux botaniques et batraciens. L'intérêt ici des oiseaux, c'est que c'est des oiseaux communs. De toute façon, des arbres, c'est vraiment un oiseau commun. Sauf qu'ailleurs, il est de moins en moins commun. Il est en voie de disparition. Nous, on fait, à la LPO, on fait des suivis sur ces oiseaux-là depuis une cinquantaine d'années et on voit les effectifs qui se cassent la figure sur ces espèces-là, tout à fait communes. Et un groupe de... Là, il y en a plusieurs centaines. Hein. Un groupe de 400, 500 et quelques pinsons, on n'en trouve plus dans un milieu bocager agricole autre qu'ici, dans l'ouest de la France. Il faut carrément aller jusque-là. Et il y a quelques zones périphériques de zones protégées comme la Brière ou Grandlieu, ou des zones comme ça, ou sur les marais de l'Erdre. Il y a quelques endroits relativement bien protégés où on peut trouver de temps en temps ces espèces-là, mais des quantités comme celle-ci, on ne les voit plus ailleurs. Donc c'est l'intérêt de la zone, c'est que ça maintient... Regardez combien ils sont là. Là, il y a plusieurs centaines d'individus, ils sont peut-être un millier là. C'est impressionnant. Un millier de... Pensez-y quand vous irez après dans la campagne, si, à cette saison aussi, hein, parce que dans un mois, alors là, dans un mois, le printemps va commencer, hein, si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs. Mais là, ils vont se répartir. Après, ils vont nicher. Donc, ils vont se séparer les uns des autres. Et puis, de toute façon, eux, ils vont nicher ici. L'essentiel d'entre eux va nicher ici.
Et après, les petits, alors, c'est au mois de mai-juin.
Oui. Tout ça, alors, dans la bande, là, il peut très bien y avoir aussi quelques pinsons. Ça arrive de temps en temps, des pinsons du Nord. Alors, le pinson du Nord, c'est une espèce spécifique. Mais des pinsons qui viennent du Nord, qui, quand il fait très froid, viennent chez nous. Alors très froid, cet hiver, il n'y a pas eu grand froid, mais il a fait froid jusqu'en Allemagne en mois de décembre. Donc ça peut être des pinsons qui viennent d'Allemagne, de Hollande et au-dessus, qui descendent chez nous, et par petits bonds, parce que ce n'est pas des migrateurs, ces oiseaux-là. Normalement, c'est des oiseaux tout à fait d'ici, c'est des autochtones. Mais il y a des concentrations qui se font. Et il y a donc du mouvement qui vient du Nord. Et ils peuvent s'arrêter ici parce que justement, c'est une zone intéressante et il n'a pas fait froid. On a eu une semaine de gel depuis un mois et demi, on fait encore de gel pas violent. Alors le machin blanc au fond, ça s'appelle une vache. Ah, et je peux frimer parce que j'ai des jumelles.
Exactement, hein, parce qu'à l'œil nu...
À l'œil nu, on peut prendre ça pour des aigrettes ou des je ne sais quoi, des oiseaux blancs. C'est une vache. On voit que le haut. Voilà, c'est une aigrette tachetée. Déjà. Très rare, avec des cornes. Encore plus rare.
Ah bah oui, bah c'est adapté au milieu.
Alors, c'est un sabot un peu étroit. Ça pourrait être un chevreuil, ça. Le sanglier est un peu plus large. C'est effectivement deux chaussons là, mais un peu plus large et un peu plus enfoncé. Ça, c'est un peu Puis il y a une espèce de pointe.
Ouais.
Donc c'est plutôt du chevreuil, ça. Et du sanglier. On va voir. Ouais, ça...
Découverte des zones humides de Notre-Dame-des-Landes avec les naturalistes en lutte.
Donc, et ils attaqueront pas un humain. Ils pourront par contre se défendre vis-à-vis d'un chien et mordre le chien et lui refiler la rage. Et c'est le chien qui refilera la rage à ses propriétaires. Ouais, c'est ça le problème.
Il y en a des renards
qui ont la rage. Il y en a toujours. Ça, c'est maintenant endémique, ça monte, ça descend, il y a des épidémies qui grimpent, après ça redescend à nouveau. Est-ce que vous avez vu déjà des charbonniers, les grands qui font tout noir? Ah oui, d'accord. Ah oui,
d'accord. À côté de chez moi, un mini.
C'est un renard comme les autres, sauf qu'il est légèrement plus grand et il est sombre, très sombre.
Il a la couleur de... Oui, il est couleur lièvre un peu, puis noir sur le
dos. Noir sur le dos. Voilà.
Mais il n'est pas rond.
Il n'est pas rond.
Il est plutôt ouais, beige voilà, comme les lièvres un peu. Quoi. Voilà. Ah oui, c'est des grosses bêtes. Hein.
Oui,
c'est un gros, c'est un chien
gros.
Déjà pas...
Oui, il est un peu plus gros que son collègue. Oui.
Alors que les renards autrement, c'est pas très très gros. Hein.
Non.
Non, là il était pas plus... C'est un gros chien.
C'est ça, ouais. Ou un petit chien comme on veut.
Ça ressemble plus au chat.
Si, il y a toujours. Ouais. Mais pas. C'est pas très fréquent parce qu'il y a des campagnes de vaccination. C'est l'ONF, l'ONCFS plutôt, l'Office national de la chasse qui fait ça, qui organise ça.
Il y a la vaccination
de... il leur donne des boulettres.
Des boulettes
bon, alors, oui. Est-ce qu'on va passer là?
La différence de la FNSEA, c'est que ceux-là, ils ne sont pas cramés, ça sert de bien stable. C'est bien.
Oui, il y a un trou là.
On a marqué le terrain.
On joue à la marelle. Là, il est vraiment. On a remarqué des petites.
Et là, on est vraiment dans la prairie permanente, humide en permanence. C'est-à-dire que l'eau est à fleur ici, tout le temps. C'est pour ça que la végétation, on est un peu en bas. C'est pour ça que cette végétation est présente là. Et c'est ce qui fait que ce type de milieu a disparu partout ailleurs dans l'ouest de la France. Qui a été drainé en fait.
On le retrouve où dans le reste de la France?
Dans certains endroits, dans le centre de la Bretagne, on retrouve des endroits comme ça. Qui sont aussi arrosés et puis qui ont des endroits d'élevage où la terre est pauvre. Donc on n'a pas essayé de faire du maïs. Donc comme la terre est pauvre, et ben c'est un... C'est une bénédiction pour la biodiversité. On les a laissés tranquilles.
Ouais. Comment est-ce qu'on explique ça?
Parce qu'on explique ça tout simplement parce que une terre qui est pauvre,
oui.
Elle est, comment dire, elle est à l'état le plus proche
brut,
de la
brut, oui,
naturelle.
Originel, ouais.
Donc, il y a une diversité d'espèces qui poussent simplement là, la diversité d'espèces qui va pousser là, sera plus importante que sur l'autre prairie qui a été travaillée. Tout simplement ça.
Donc, simple fait, d'accord.
Vous avez là, vous avez 15 espèces végétales qui poussent, là-bas vous en avez deux. Donc si vous avez 15 espèces végétales, vous aurez une douzaine, une quinzaine, une vingtaine d'insectes. Avec cette vingtaine d'insectes, vous aurez une quarantaine d'oiseaux. Alors que là-bas, vous aurez deux plantes, trois insectes, un oiseau.
D'accord. Okay.
C'est ça qui fait c'est ça qui fait la différence entre ça et ça. Et bon, évidemment, ça nous intéresse un peu plus.
Ah ben, un peu plus, oui.
C'est pour ça qu'on essaye de protéger ça, en sachant qu'on n'est pas arrivé à protéger dans les 50 dernières années ce type de milieu qui a été entièrement... démolir, remanier, et les haies.
Quand ça n'a pas été bétonné, oui.
Quand ça n'a pas été bétonné. Des haies qui sont aussi anciennes
est aussi large et en continuité. Parce que ce qui est embêtant, le milieu est, quand il est fractionné,
parcellé,
il n'a pas beaucoup d'intérêt.
Il faut qu'il y ait une continuité. Quoi.
Ah, nos vanneaux se rapprochent. Alors ça, c'est une espèce ordinaire. On en parlait des espèces ordinaires. Mais c'est une espèce ordinaire qui va très mal. Elle est en voie de raréfaction dramatique. Elle est toujours chassée, le vanneau, là. Vanneau huppé. C'est une espèce chassée. Hein.
Elle est chassée, ouais. Les gens
l'aiment. Vanneau huppé.
Non, les gens ne chassent pas pour manger.
Pourquoi ils le chassent alors?
Pour le plaisir du coup de flingue. Il y a des gens qui chassent pour manger. Hein. Faut pas,
Mais
il y en a pas beaucoup. Il y a très peu de gens qui chassent pour manger. Quand vous avez flingué un bestiau comme ça, il est gros comme ça. Il faut le plumer. Et quand vous avez mis au fond de l'assiette, vous dites, bon, si j'en avais deux, ce serait mieux. Et si vous invitez des copains, bah, c'est pas deux qu'il faut, c'est 30, selon le nombre de copains.
Au supermarché, ne pas prendre de permis de chasse, ne pas louer la chasse, ne pas les cartouches, les assurances.
Et allez, ils sont jolis.
Ouais, t'as l'air.
Alors là, par contre, vous avez, deux, il y a deux étourneaux avec. Bon, les étourneaux sont. Alors, ils ont le même instinct que les collègues dont on parlait tout à l'heure. Ils se regroupent. Il y a quelques petits, les étourneaux. Ouais.
C'est
au milieu. Voilà.
Plus
petit.
C'est quelle famille? Alors le vanneau, c'est pas un rapace,
non? Non, c'est un limicole. Un limicole, c'est un oiseau qui aime bien être aux bordures des zones humides et les pieds dans l'eau. En limite de la flotte. C'est pour ça qu'on l'appelle limicole, en limite. Des insectes et quelques graines. En fonction de.
Alors on a le droit de les tuer?
Oui. C'est un oiseau très couru pour les chasseurs, malheureusement, pour eux. Quand vous entendez un chasseur, vous êtes dans un endroit où vous entendez, alors si vous ne voyez pas le vanneau, vous entendez un chasseur ou plusieurs dans les milieux humides qui tirent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pourquoi ils sont énervés comme ça? C'est parce qu'ils sont en train de tirer sur les vanneaux. Là, vous avez vu à quelle hauteur ils sont? Un fusil porte à 50 mètres, là, ils sont à 200 mètres. Donc ils ont une distance de sécurité. Oui. Les chasseurs ont tendance à les tirer au-delà de la bonne distance pour eux, c'est-à-dire au-delà des 50 mètres. Oui. Donc ils tirent 15 cartouches et éventuellement, ils en blessent un. Ils ne les tuent pas, ils les blessent.
Ils les blessent ces endroits-là en plus.
Hein. Ben oui, c'est un oiseau qui est trop loin, les plombs partent dans tous les sens. En fait, ils prennent un plomb dans une aile, soit ils s'en sortiront, soit ils casseront l'aile. Donc c'est... Une des difficultés de cette bestiole-là, c'est que les milieux favorables sont moins nombreux et qu'on les chasse.
Mais on
l'envoie
au bord de mer,
sinon. Oui. Et eux, ils bougent. Hein. Mm-hmm. Ils sont pas migrateurs au sens strict, mais ils bougent beaucoup. Par contre, ils sont pas sédentaires, ils bougent beaucoup. Et on a beaucoup de vanneaux du Nord, eux, ils sont très nomades. Ouais.
C'est nomade.
Voilà.
Comment s'écrit, vanneau?
V-A-2-N-E-A-U. U-P. Voilà, avec un X qu'on a plusieurs.
UP parce que.
Parce qu'il a ils ont une petite huppe. Alors là,
c'est joli.
Ouais, quand ils sont posés, ils ont une petite huppe. Ouais. On la voit plus quand ils sont en plumage nuptial d'ailleurs. Bon, bah, on va aller dans le gras, hein. On va essayer. Ah ouais, là hein. Alors, une des autres richesses du site. C'est le réseau de ruisseaux et de mares. Alors là, c'est un truc, Notre-Dame-des-Landes, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Alors là, tout l'ouest de la France, hein, il faut chercher très loin pour trouver autant un réseau de mares connecté aussi bien préservé. Ceux qui connaissent un peu la zone, on s'est renseigné à gauche, à droite. Même chez les Bretons, on ne trouve pas ça. C'est un truc tout à fait exceptionnel. Et ce qui fait que tout l'intérêt de la zone, c'est que ça donne des milieux de vie pour les batraciens et la qualité et la diversité des batraciens ici est tout à fait exceptionnelle, absolument phénoménale. On n'a pas d'équivalent, je dirais dans tout l'ouest de la France, il n'y a pas d'équivalent. Même, je pense que si on allait au-delà, on n'aurait sans doute pas non plus, pas grand-chose qui ressemblerait à ça. Peut-être dans des zones montagneuses qui, par définition, seront moins, il y aura moins de mares. Définition, il y a moins de mares dans un milieu un peu bosselé. Il y a des milieux qui sont préservés encore en France, mais un milieu de plaine comme celui-ci, on n'en trouve plus.
Une qualité d'eau ici. C'est tout à fait. Parce que comme on est en tête de bassin, si l'agriculture intensive elle est très, très faible, du coup il y a une qualité d'eau, parce que les batraciens sont très sensibles à la chimie. Puisque du coup, vous savez qu'ils respirent plus ou moins par la peau, donc tout passe à travers. Et la moindre chimie, donc les perturbe dans la reproduction. Donc il y a, comme tu dis, hein, la multitude de ruisseaux, de petites mares. Là, ça va être des zones de ponte, comme c'est un peu dégagé, il faut qu'il y ait un peu de lumière. Donc les bords, là, vont être des zones de ponte dans très peu de temps. Les grenouilles agiles, les grenouilles vertes, les tritons.
Des crapauds, des tritons, c'est sûr, des tritons.
Ouais. C'est des mares qui ont été faites par les agriculteurs.
Ça, c'est un abreuvoir, ça.
Oui, c'est ça, c'est un abreuvoir. C'était une boîte pour les...
Alors, il y a des dépressions qui sont formées. Un ruisseau passe dedans, ça fait une mare.
Et puis on l'agrandit.
Et puis on l'agrandit un peu, on dégage un peu sur le bord pour les. Et puis voilà, ça fait une mare. Et il y a plus de 200 mares sur la ZAD, ce qui est quand même tout à fait gigantesque. Et nos camarades qui ont fait l'étude initiale, le bureau d'études Biotope, n'ont pas trouvé les 200 mares. Ils n'ont pas tout trouvé.
Ils faisaient sec à l'époque.
C'était la canicule, je crois.
Et il leur en a manqué beaucoup. Et il leur a manqué beaucoup d'espèces aussi. Et pourtant, les batraciens, quand on vient au bon moment, qu'on y met le temps et qu'on cherche, on les trouve. Mais eux, ils n'ont pas tout trouvé.
Alors le triton, hein, qui est un peu la star de...
Ouais.
Tu dis quelques petits mots sur lui ?
Alors, il y a plusieurs tritons. On a parlé du triton crêté au départ. Le triton crêté, alors, comme son nom l'indique, quand il est en période de reproduction, il est très coloré, il a une crête sur le dos. C'est pour ça qu'on l'appelait comme ça. Et celui-là, c'est un triton qui est relativement répandu, mais... De façon très 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 peu importante. Là, évidemment, on a trouvé une population beaucoup plus importante que l'ordinaire, donc c'est pour ça qu'on a affiché notre triton. Mais il y en a d'autres, il y a le triton palmé, il y a d'autres tritons, et on a trouvé, il y a un an de ça, on a trouvé un autre triton qui s'appelle le triton de Blasius, qui est beaucoup plus grand que les collègues, donc il est quand même plus facile à trouver que les autres. Un triton crêté, c'est grand comme ça. Oui, même pas. Le Blasius, il fait le double, donc il est relativement facile à trouver. On en a trouvé beaucoup, et c'est une espèce rarissime. Donc les gens qui cherchaient, ils n'ont pas bien cherché. Hein, c'est curieux. Alors nous, on l'a trouvé il y a... on ne l'a pas cherché, on n'a pas vraiment cherché, on l'a trouvé il y a deux ans. On a commencé à le détecter il y a deux ans. Il y a un an, on a fait un tour et on a trouvé, je crois, 9 sites de mémoire. En espérant que je... Enfin, dans ces eaux-là. 9 endroits où il était présent, mais quand on dit présent, c'est présent. Eux, évidemment, ils ne l'ont pas trouvé. Et ce triton-là est extrêmement rare. C'est une hybridation durable. Enfin, les hybrides ne sont pas toujours...
Mais ils sont hybrides qui peuvent se reproduire.
Voilà, c'est qui tient la route. Donc, c'est une espèce. C'est pour ça qu'il a obtenu le statut d'espèce, parce qu'il dure, c'est une hybride, c'est un hybride, mais il se reproduit. Donc c'est une espèce tout à fait exceptionnelle, et on a sorti l'info il n'y a pas très longtemps pour dire attention, s'il vous plaît, arrivez pas avec vos bulldozers, vous allez tout foutre par terre. Et cette espèce-là, présente sur un site, normalement, puisque c'est une espèce protégée, on doit en tenir compte, on refait notre copie, pour dire, on a oublié cette espèce-là, il faut qu'on refasse l'étude d'impact, le machin. C'est pas sûr qu'il le fasse. Et ça, on a écrit au préfet il y a un an, il a oublié de nous répondre. Voilà, il est très occupé.
Mais ça, pour le triton, il n'y a pas des recours comme le campagnol qu'il faut faire ?
Alors, le campagnol aquatique a été reconnu par le préfet, il a eu coup de peau, lui. Pourquoi ?
Il y a des étrangers qui sont venus.
Voilà. Il y a des étrangers acceptables et d'autres qui le sont moins. Cet étranger-là, c'est-à-dire que là où ils se sont fait piéger chez le préfet, c'est que le campagnol aquatique, il était reconnu comme présent sur le site et qu'en cours, entre le moment où ils ont fait l'étude d'impact et le moment où ils ont sorti le rapport, le campagnol aquatique a été classé protégé. Il ne l'était pas avant. Donc, ils n'ont pas pu le repousser comme espèce présente, puisque tout le monde l'avait vu et qu'il n'était pas protégé. Donc, tout le monde, on en a vu plein. Il n'était pas protégé. Manque de peau en cours de route, il a été classé par l'UICN l'Union internationale de conservation de la nature. Autrement, on ne l'aurait pas vu.
En revanche, le triton, alors ?
Alors, le triton, lui, on le sait depuis longtemps qu'il est protégé. Tous les tritons sont protégés, mais ceux-là, il ne les voit pas. Parce que les espèces protégées, les voient moins bien que les espèces non protégées.
C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont protégés, c'est parce qu'on ne les voit pas.
Voilà. Enfin, c'est ça, c'est quand même un peu douteux. Alors, il y a une autre espèce qui s'appelle la crossope aquatique. C'est une musaraigne. Toute petite musaraigne. Pas très facile à trouver, par contre. Et on en a trouvé... pas mal aussi ici. Enfin, on sait que les milieux sont favorables, donc c'est normal qu'on trouve ces espèces-là dans les milieux.
Au moment de la reproduction, vous les voyez ?
Oui, et au moment où ils font leurs œufs, au moment où... Alors, on sort, normalement, on sort de... Vous savez que les tritons ont une phase aquatique et une phase terrestre. L'hivernage, ils ne le font pas dans la flotte, évidemment, ni dans un terrier au bord de... ni dans un trou au bord de l'eau. Ils vont se planquer, soit dans une zone comme celle-ci, les ronces à côté sont très favorables, ils se planquent dans un endroit un peu surélevé où ils ne vont pas être embêtés dans l'hiver, et ils hibernent pendant, selon la température, un mois, deux mois ou trois mois. Alors normalement, fin janvier, comme on est là, personne ne sort, mais vu la saison, je pense que... On a déjà trouvé des tritons et des salamandres là, il n'y a pas longtemps, ça veut dire qu'ils commencent à bouger là. Ils ne devraient pas, mais c'est comme ça. C'est le climat qui décide.
S'il y a un coup de froid, ils vont retourner vers...
Alors le problème, c'est que s'ils ont le coup de froid tardif, peut être assez dramatique pour eux, parce qu'ils auront... Ils auront commencé à se rapprocher des mares, ils auront même mis certains œufs. Ils auront déjà pondu. Et si ça, il fait très froid, ça va geler. Et là, ça va être une catastrophe pour eux. Et ça peut arriver, effectivement. Parce que là, comme c'est des animaux à sang froid, ils réagissent en fonction de la température. Si la température s'élève, ils bougent. Si elle descend, ils s'arrêtent. Donc là, ils sont en train de bouger. Il ne faudrait pas qu'il fasse froid en février. Et c'est tout à fait possible. Voilà une belle mare. On continue, et puis on va peut-être faire le tour. Quand vous en avez marre, vous dites des mares. N'importe comment.
Parce que moi, j'ai fait la pêche à la grenouille dans ma jeunesse. Je me dis comment on transporte des batraciens, tout ça. C'est pas si évident que ça, quoi.
Nous, on a fait une étude, on a fait une étude en forêt de Fontainebleau avec des moyens considérables pour déplacer 5 mares. Il nous a fallu, je crois que le budget c'était 200 000 euros par an sur 10 ans, pour 5 mares. Ici ils en ont 200. Il a fallu, c'était un endroit où ils voulaient modifier complètement le site. On a recréé 5 mares ailleurs, 6 je crois même, avec un biotope qui convient. Le biotope qui convient, c'est-à-dire il faut quand même que, quand on fait un trou d'eau, c'est pas une mare, c'est un trou d'eau. Il faut que la végétation pousse. Il faut que la qualité de l'eau soit respectée, il faut que les milieux soient ressemblants. Donc c'est très, 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 très long. Et après, on prélève les petites bêtes et on les envoie à côté. Il faut qu'on les envoie à côté suffisamment loin pour qu'elles ne reviennent pas sur le site initial, parce qu'elles étaient vachement mieux avant. Et ça, il n'y a pas de raison. Si on les déplace, il n'y a pas de raison qu'elles ne reviennent pas. Et pas trop loin non plus, pour qu'elles ne soient pas sur un milieu qu'elles ne connaissent pas du tout, où ils n'aient pas le... Donc déplacer des batraciens, c'est un truc... quasiment impossible.
C'est pour ça que la compensation en question, c'est...
Donc ils le font pas.
C'est une vue de l'esprit. Ça marche pas.
Ici, ils ont prévu de déplacer trois espèces. Ils déplacent entre 5 et 10 individus, et c'est tout. Voilà, c'est ça le déplacement des espèces protégées. Dans les dossiers réglementaires, on parle de destruction et de déplacement d'espèces protégées. Comme destruction d'espèces protégées, ça fait pas chic, on dit déplacement. Mais 99% des espèces présentes seront détruites, pour le dire.
Parce que de toute façon, ils n'ont pas d'obligation de résultat.
Non, exactement. Ils n'ont pas d'obligation de résultat.
Si voilà. Ça ne marche pas, ça ne marche pas.
On a déplacé un triton. Ah, c'est dommage, il n'a pas survécu.
Il a mouru.
Voilà, on a fait ce qu'on a pu. Il n'y a pas d'obligation de résultat, exactement. Donc ça, c'est du flanc intégral.
C'est de la com, en fait.
C'est même... Oui, on peut appeler ça de la com. C'est même un très gros mensonge.
Mais c'est ce qu'ils appellent la compensation, c'est ça ?
Alors la compensation, c'est une fois qu'on a dit qu'on allait tout casser, une fois qu'on allait réduire les impacts, une fois qu'on allait déplacer les espaces protégés, donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de dégâts de fer, hein, On dit qu'il y a encore des effets, il va y avoir des effets, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ça, vous allez avoir une piste avec un... Bon. Donc effectivement, vous allez changer de milieu. Donc la compensation, c'est comment est-ce qu'on maintient le niveau de biodiversité à cet endroit-là ou juste à côté
pour que ce soit acceptable.
Pour que ce soit acceptable. L'objectif, c'est de conserver cette biodiversité qu'on a ici. On va aller à 10 km, on va la préserver à 10 km d'ici ou à 100 km d'ici. Et on fait comment ?
Mais ça aussi, c'est une vue de l'esprit. Quoi.
C'est une vue de l'esprit. Vous avez un sol riche. On parlait de richesse et de pauvreté. Ça, c'est un exemple typique. Vous avez un sol riche. Comment vous faites pour l'appauvrir ? Un sol pauvre, on met de l'azote, des phosphates, un peu de fumier. On l'enrichit, c'est fait dans la journée. Pour appauvrir ce milieu enrichi, faut attendre 3 siècles. Donc la compensation sur 3 siècles, c'est pas tellement d'actualité. On ne peut pas partir d'un milieu qui a été entièrement utilisé par l'agriculture de façon intensive pour le réappauvrir, pour retrouver ce genre de choses. C'est impossible. Donc la compensation dans ces conditions-là est absolument impraticable. Quand c'est difficile, on prend une zone, et on, par exemple sur les zones humides, et on double la surface pour dire on va faire des compensations. Actuellement, on travaille sur un périmètre qui fait 1600 hectares, entre 1500 et 1600 hectares. Le double de 1600 hectares, ça fait 3000 à vue de nez. Où va-t-on trouver 3000 hectares en Loire-Atlantique de terres pas trop cassées qu'on pourra améliorer? On va remettre des haies, on va faire des ruisseaux, on va faire des mares, on va faire... Bon, ouais, plutôt... Enfin, sur la Lune, je sais pas. C'est comme compensation...
Il y en a qui parlaient de Mazerolles à un moment.
Mais oui, mais...
Des marais de Brière.
Les marais... Bon, la Brière est déjà... Alors, oui. On ne peut pas compenser une zone qu'on détruit sur une zone déjà protégée. Manque de peau. Manque de peau. La Brière est un parc et Mazerolles est classé Natura 2000. D'accord. Donc, l'affaire est classée. Il faut trouver un endroit qu'on va restaurer pour faire des compensations. Restaurer la biodiversité, il faut partir d'un milieu qui a été démoli pour le ramener à ce que c'est là. C'est une ingénierie incroyable. C'est des sommes gigantesques. On parle d'un siècle, 50 ans, entre 50 ans et un siècle. Quand on dit à un aménageur dans un siècle, t'es prêt à t'engager pour un siècle ? Qui dit dans un dossier de faisabilité, tiens, je vais m'engager pour un siècle, même pour 50 ans ? Normalement, quand il...
Non, il a une vision à 5 ans. En théorie, quoi. Prochaines élections.
S'il y a des gens qui ont pas de vision à long terme, c'est bien les politiques.
5 ans maximum.
Ça, c'est clair. Mais les aménageurs non plus. Quand un aménageur a dit « moi, je me suis engagé sur les 10 prochaines années », c'est un miracle. Mais 10 ans, c'est rien du tout. Ils n'ont pas eu le temps de le faire.
Vous êtes combien maintenant au sein du collectif, alors les naturalistes en lutte ?
Alors, de gens actifs, entre 30 et 50, et des gens qui viennent voir ce qui se passe. Après, bon, c'est un collectif ouvert, hein, vient qui veut. On n'est pas obligé, d'amener sa carte d'expert de je ne sais quoi pour dire que c'est un peu plaisir. Mais dans le groupe, il y a vraiment des experts, il y a des gens qui travaillent dans les bureaux d'études. Donc il y a des gars qui ont un pédigré conséquent. Ils sont difficilement contestables.
Donc il y a tout, il y a faune, flore, milieu naturel.
Ah oui. Spécialiste des plantes, de toutes les mêmes. Spécialiste même des mousses et de certaines formes mixtes entre phyto et zooplancton. Voire de mousses qui sont à la fois, on ne sait pas trop si c'est du vivant ou du pas vivant. J'ai assisté à une conférence d'un spécialiste de ça qui était venu ici. C'est intéressant, la frontière elle est discutable, c'est vachement intéressant. Et puis évidemment tout ce qui est vivant, on a du monde là. Les spécialistes des chauves-souris, le dossier chauves-souris a été totalement écarté. Il n'y a pas de chauves-souris à Notre-Dame-des-Landes, il n'existe pas. Il y a quand même deux ou trois spécialistes qui sont venus voir. Et comme par hasard, ils en ont trouvé.
Et toi, ton truc, c'est quoi ?
Moi, je suis plus branché sur les oiseaux, je suis à LPO, et le poisson et les mammifères. Je suis moins botaniste, lui, là, plus comme moi.
Et puis, moins botaniste, mais en même temps, tu en as appris de belles, quoi.
Oui, non, mais j'ai... oui, il m'arrive de m'intéresser à d'autres trucs. Quand on met le nez dehors et qu'on regarde ce qu'ils veulent, on regarde aussi ce qu'ils poussent. Ben voilà, c'est un peu logique. C'est un système. On regarde aussi quels sont les systèmes favorables qui font que ces bestioles-là sont là. Donc, on s'intéresse
à la... C'est un ensemble.
C'est un ensemble.
On peut pas ignorer le reste.
Toi, ta spécialité, c'est quoi?
C'est les oiseaux aussi, à l'origine, quoi. Mais du coup, on s'intéresse aussi un petit peu à tout, quoi.
Ça vous a aussi encouragé à voir ailleurs, quoi.
Oui.
Plus profondément dans des domaines qui n'étaient pas votre spécialité.
Oui, tout à fait. Ouais. On s'intéresse même au niveau de l'association à tout ce qui est agrobiologie, parce que du coup...
Les pratiques agricoles.
Les pratiques très agricoles important. Qui posent énormément de problèmes. Et pas que pour les oiseaux d'ailleurs. Mais comme tout est en lien et tout se tient, si les oiseaux crèvent, je pense que nous derrière.
On suivra. D'espèces protégées. Parce qu'ils ne les connaissent pas. Nous, on leur dit qu'il y en a. Pénal. Oui, un recours pénal. C'est-à-dire qu'on va demander au président du tribunal de grande instance de diligenter une contre-expertise, comme nous on l'a faite, en disant à cet endroit-là, il y a ça, ça, ça et ça. Donc on leur dit, vous amenez vos experts, l'État, nous on en sort un. On sort quelqu'un un universitaire au-dessus de tout soupçon, qui n'en a rien à foutre, normalement. C'est pas facile à trouver, mais... Bon, on en trouve un. On va sur le terrain et il constate la sens ou la présence de ce qu'on a dit. Bon. Une fois que ça s'est fait, si le projet avance, on attaque les porteurs de projet au pénal pour infraction à la réglementation environnementale. Là, c'est plus le tribunal administratif qui est en cause, parce que le tribunal administratif, c'est une passoire. C'est un correctionnel. Et là, c'est une amende. Donc ça devrait freiner un peu les enthousiasmes.
C'est la compensation. Donc voilà, ce qu'ils mettent en avant, après, ben voilà, on va compenser. Enfin, c'est vraiment un sujet de discussion. Et là qui passe pas d'ailleurs parce que...
La différence universitaire.